des sujets d'actualité est la réforme des retraites du gouvernement d'Emmanuel Macron et du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Pour comprendre de quoi il en retourne, Micro-Rebelle vous propose de revenir aux origines de ce système des retraites. On sait qu'il est aujourd'hui composé d'un régime général, lui-même constitué du régime de base et du régime complémentaire, et de régimes spéciaux. Quand et comment s'est façonné le système des retraites ? Quelles mesures l'ont modifié au fil du temps et pour quelles raisons ? Quel rôle tient le système politique et économique mondial ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons rencontré Paul Masson, militant d'éducation populaire, qui nous trace l'historique du système des retraites en France. Alors bonjour Paul, dans l'actualité aujourd'hui, on entend parler de ce fameux projet de réforme des retraites. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ?
Alors je peux difficilement parler de la réforme de Macron, pour la simple raison qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais que cette réforme, elle est reportée au mois d'août de l'année prochaine, dans un contexte qui aura probablement évolué et qu'on n'a absolument aucune idée dans quel sens ça ira. On sait où il voulait aller, on ne sait pas ce que sera cette réforme.
Alors, vu qu'on n'est encore pas capable de pouvoir en parler de manière claire, peut-être que pour présenter un peu le système actuel de retraite, on peut revenir à son point de départ, à sa création et dans quel contexte historique cela a été fait.
Effectivement, c'est intéressant parce que la création de nos retraites actuelles est le fruit du projet du Conseil national de la résistance. C'est pendant la dernière guerre qu'a été pensé le système de protection sociale qui a mis en place nos retraites. Et après-guerre, donc, qu'est-ce que nous dit le texte du Conseil de la résistance ? Mettre en place un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Concernant la retraite, la phrase elle est explicite, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Voilà l'orientation que donne le Conseil de la Résistance dans son programme. À la Libération, on est dans un contexte très particulier qui va permettre que ça se mette en place. Les éléments de ce contexte, la première chose, c'est qu'on sort d'une lutte de libération nationale. Et la Libération nationale avait deux objectifs. Se débarrasser du nazisme et des envahisseurs et présenter une alternative pour la société française, c'était le programme du Conseil national de la résistance. Au niveau politique, les deux forces dominantes à la libération, c'est le Parti communiste et c'est les gaullistes. Et la réforme de la sécurité sociale et des retraites dans ce contexte-là est le fruit d'un compromis entre les deux, dans un moment où le monde est divisé, on vient d'avoir les accords d'Yalta, entre l'Est et l'Ouest. Et le capitalisme a toujours dans la tête que, à certains endroits du monde, ils se sont fait foutre dehors. Donc il y a nécessité, c'est une sorte d'épée de Damoclès du capitalisme, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le patronat, à ce moment-là, qui n'entend pas ce type de réforme, a été fort compromis pendant la guerre. Il était plutôt du côté de l'occupant que du côté des résistants. C'est-à-dire que la résistance du patronat, elle est relativement faible. Et on a nécessité de reconstruire la nation. C'est le projet gaulliste de cette époque. Et si on veut reconstruire une nation, il faut faire consensus. Et l'idée d'une généralisation d'une protection sociale, dont les caisses de retraite, c'est quelque chose qui fait consensus.
Alors aujourd'hui, on entend parler de régime général, de régimes spéciaux. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'est mis en place? Et si oui, est-ce que tu peux un peu revenir sur le pourquoi de la création de ces différents régimes?
Alors, quand on décide de créer le régime de la sécurité sociale pour tout le monde, on ne part pas de rien. On a déjà des secteurs qui ont un système de protection sociale. C'est, par exemple, les fonctionnaires ont déjà ce système-là. Et on va garder ce qui existait. Ça va être ce qu'on a appelé les régimes spéciaux. À côté du régime général. Le régime général, c'est la généralisation et ça concerne pratiquement tout le monde. Mais on va avoir des régimes spéciaux dont on les garde. Les professions libérales n'entendent pas cotiser avec les ouvriers. Et ils doivent passer par la loi qui contraint la mise en place de ces caisses de retraite et ils vont mettre en place des régimes autonomes. On va avoir aussi les agriculteurs qui, eux, ont moins besoin d'argent direct quand ils sont vieux, parce qu'habituellement, ils ont leur terre, ils ont leur... mais qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans la protection sociale. Et on va avoir le régime agricole qui sera tenu par la MSA. Voilà comment, à ce moment-là déjà, se met en place, à côté du régime général, on tient compte de ces éléments-là. Le projet de sécurité sociale dont les retraites font partie, c'est un des éléments clés de la construction du contrat social d'après-guerre. Avec l'idée des services publics, avec l'idée de l'énergie que tout le monde doit pouvoir disposer, c'est un des éléments du contrat social d'après-guerre et ce contrat social d'après-guerre, actuellement encore, les Français y tiennent toujours.
Et peut-être redire qu'à l'époque, quand on parlait de sécurité sociale, ça comprenait plusieurs composantes, dont les retraites.
Voilà. Quand, à cette époque, on parle de la sécurité sociale, on ne parle pas de la caisse maladie. On parle de la maladie, des accidents du travail, de la maternité, avec les allocations familiales, et des retraites. Quand le terme sécurité sociale, à ce moment-là, désigne l'ensemble.
Alors maintenant, est-ce qu'on peut venir peut-être un peu plus en détail sur le fonctionnement de ce système de retraite, de cette caisse de sécurité sociale?
Alors, on va, à ce moment-là, inventer quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Jusque-là, la gestion... Dans le cadre des entreprises, c'est les patrons qui le font et qui le font tout seuls. Les élus de la nation gèrent les impôts, c'est-à-dire le... Et là, on va inventer des caisses qui sont gérées par des élus syndicaux, des élus qui sont élus sur liste syndicale. Et les caisses de sécurité sociale qui se mettent en place à ce moment-là, on va avoir 75% des représentants qui sont élus sur des listes syndicales ouvrières et 25% sur des listes patronales. C'est-à-dire que les salariés élisent leurs représentants pour gérer cette grande caisse. Le financement de la protection sociale ne passe pas par l'impôt. Ce n'est pas l'État qui décide de financer la sécurité sociale. Le financement est pris sur des cotisations sociales qui sont prélevées sur la valeur ajoutée par le travail des salariés. Quand le salarié travaille, à la fin de sa production, il a produit de la valeur. Il y a plus de valeur qu'avant qu'il n'ait travaillé. Là-dessus, il reçoit... Pour ça, il va recevoir un revenu sous forme de salaire net et il va recevoir un revenu qui lui sera distribué quand il sera en retraite, quand il sera en maladie, quand il sera en accident ou sous forme d'allocation familiale. Les cotisations sociales permettent de donner un revenu aux salariés.
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer un contexte qui favorisait la création d'un système de retraite comme ça, basé sur la solidarité. Là, tu l'as bien expliqué, c'était parce que les patrons étaient vus comme un peu des collaborateurs, d'une certaine manière. Ceci étant, est-ce que depuis 1945, les patrons et le gouvernement sont toujours restés dans leur coin, ou est-ce qu'il y a eu des volontés à des moments de l'histoire de vouloir modifier ce système de retraite tel qu'il était ?
Alors, la première attaque en règle contre ce système de protection, elle va être menée sous De Gaulle, en 1967, par le Premier ministre qui était Pompidou. Et cette première attaque, elle va consister à s'attaquer à l'organisation de la sécurité sociale. Le patronat a repris du poil de la bête et il va faire en sorte qu'au niveau de l'organisation, il y ait plus 75% des représentants qui soient ouvriers et 25% patrons, mais ce qu'on va appeler le paritarisme, 50% patrons, 50% ouvriers. Si le patronat a réussi à démobiliser un syndicat ouvrier, c'est lui le patron de la sécurité sociale. Les ouvriers en sont dépossédés en grande partie. Deuxième chose de cette réforme de 67, les salariés ne désignent plus, ne votent plus pour désigner leurs représentants. C'est les organisations syndicales qui présentent les représentants de l'organisation syndicale. C'est-à-dire que les ouvriers n'ont plus la possibilité de dire directement leurs mots. C'est les organisations syndicales qui désignent les représentants. Ça a des effets énormes. Si je sais que j'ai des comptes à rendre aux salariés directement, je suis quand même obligé d'en tenir compte, plus que si j'ai des comptes à rendre comme permanent syndical. Troisième chose, et qui est relativement importante, c'est qu'on change de logique. On a décidé de donner un revenu décent aux vieux salariés. Et c'était ça qu'il fallait qu'on règle. La réforme Pompidou dit on casse la sécurité sociale de 1945 en mettant en place quatre caisses. Une maternité, une maladie, un accident du travail et une retraite. Et chaque caisse devra s'équilibrer financièrement. On n'est plus sur un projet politique qu'on finance, on gère des sous. Et on gère des sous entre permanents, syndicaux, patronaux. On est tout à fait, on a changé de logique. C'est la première attaque contre la sécurité sociale sérieuse qui casse le cadre.
Comment cette réforme a pu se mettre en place, en fait, puisque jusque-là, tu disais que les gens étaient très attachés au système de retraite. Comment cette première attaque du patronat et du gouvernement a pu voir le jour ?
Alors, c'est intéressant de voir que pour faire passer sa réforme, Pompidou va le faire au mois de juillet, pendant les congés payés, où c'est le plus difficile de mobiliser les salariés, et il le fait par ordonnance, c'est-à-dire que les députés ne discutent pas le texte. Ils le prennent ou ils le laissent. La Chambre des députés, c'était la Chambre qui était complètement acquise à De Gaulle, et c'est passé malgré l'opposition des organisations syndicales.
Donc là, tu viens de parler de la première attaque. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu d'autres par la suite ?
Oui. Alors, après, il va y avoir la grande attaque contre les retraites, contre la sécurité sociale, contre les services publics. C'est l'attaque néolibérale qui va se passer à partir des années 80. Et la réforme Macron s'inscrit dans la suite de ça. On va y revenir. Qu'est-ce que c'est que cette... Le capitalisme veut se réapproprier les sommes énormes de la protection sociale qui lui échappent. On ne peut pas faire de profit sur la sécurité sociale. Et ça, le capitalisme n'en veut pas. Notre raison d'être, c'est de faire du profit. Et dans les années 80, il va y avoir ce qu'on va appeler le consensus de Washington. C'est les grandes entreprises, avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec les USA, qui vont dire, pour reconstituer nos marges financières, on va mettre en concurrence les travailleurs qui sont organisés, qui ont acquis des droits, qui ont un système de protection sociale, en gros les travailleurs européens, les travailleurs des États-Unis, les travailleurs du Japon, on va les mettre en concurrence avec la masse des gens du tiers-monde qui, eux, ne sont pas organisés et n'ont pas de protection sociale. Et on va créer la mondialisation libérale. Avec ces organisations, l'Organisation mondiale du commerce, le CETA, le TAFTA, sont dans la continuité de ça. Faisons en sorte que les échanges se fassent. Il n'est plus question d'un contrat social sur quelle société on veut. Il s'agit de faire organiser un grand marché mondial. La phrase de Thatcher est intéressante. La société n'existe pas. Il existe seulement des individus qui échangent sur des marchés. On change complètement de logique. On fait du commerce. La chute du mur de Berlin en 89 va renforcer ça. Il n'y a pas d'alternative. La preuve, vous voyez, il voulait faire du socialisme. Regardez, ça s'est cassé la gueule. Il y a un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire ». Maintenant, il n'y a plus d'histoire à construire. Il y a du commerce à faire. L'Union européenne va s'inscrire dans ce consensus de Washington. Elle l'adopte sur ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne. Et cette stratégie de Lisbonne est signée en mars 2000. Faire une Europe compétitive dans le grand marché mondial. Voilà ce qu'on veut faire. Et par rapport à ça, en Europe, ce choix néolibéral de faire une Europe compétitive dans le grand marché mondial a un handicap énorme. C'est qu'en Europe et en France, le coût du travail est bien plus cher que dans les pays du tiers-monde. La protection des travailleurs, ça coûte cher. Donc, il va falloir diminuer le coût du travail pour que nos multinationales puissent faire du profit. La difficulté des dirigeants qui veulent mettre en place ça, c'est que les Français et les Européens tiennent au contrat social d'après-guerre. Ils disent pas « chacun se démerde ». Non, on veut avoir ce système de protection. Et on a un système de démocratie représentative où régulièrement, au moment des élections, on repasse devant les électeurs. Donc, on veut aller contre la volonté collective, mais on va être obligé de le dissimuler en permanence parce qu'on ne peut pas annoncer clairement où on veut aller. En fait, il s'agit de faire disparaître le droit à une retraite lié au fait que les gens ont travaillé et qui s'est construit autour d'une solidarité nationale pour aller vers un éventuel revenu pour les vieux qui sera lié à la capacité d'épargne que j'aurais pu développer pendant ma vie. Si ça passe par l'épargne, le capitalisme s'en ressaisit. Quand c'est dans le domaine de l'organisation de la sécurité sociale, c'est des sommes dont ils ne disposent pas.
Et Et alors, en France, ce capitalisme, à travers les différents gouvernements, comment ils ont concrètement mis en place cette casse dont tu parles ?
Alors, la casse, elle commence dans les années 80. Hein ? Concrètement, en France, on parle toujours de la réforme des retraites, hein ? La réforme Balladur. On devait cotiser 37 ans et demi, il fait passer les cotisations à 40 ans. Les retraites étaient calculées sur les 10 meilleures années. On passe à 25 meilleures années. Et la retraite n'est plus indexée sur les salaires, c'est-à-dire elles ont tendance à diminuer. On commence par faire en sorte que les gens aient moins de revenus dans les retraites. Et en même temps, c'est le même Balladur qui, en 87, met en place le plan d'épargne retraite défiscalisé. Par contre, l'État veut bien faire un crédit d'impôt à ceux qui rentreront dans la capacité d'épargne. Première réforme, Balladur. 93, 87, le plan d'épargne retraite. 93, la réforme Balladur. En 95, Juppé va reprendre ça. Son idée, c'est faisons en sorte que ce qu'on a réussi à avoir dans le régime général, on l'impose à tout le monde. Le public contre le privé, c'est une mesure de justice. Et là, on va avoir 5 semaines de grève dure. Juppé laisse tomber. 1997, Strauss-Kahn, ministre des Finances, prépare les fonds de pension à la française. Les fonds de pension, c'est le régime par capitalisation. C'est le plan d'épargne retraite. Mais il ne va pas l'appeler fonds de pension, parce que ça fait très droite, ça fait très... Il va l'appeler fonds partenariaux. Et puis en plus, on est partenaires, les patrons, les salariés, les mêmes intérêts. Strauss-Kahn, 97. Fillon, ministre des Affaires sociales, fait passer les cotisations à 40 ans dans la fonction publique et met en place un plan d'épargne pour la retraite populaire avec exonération d'impôts. Vous voyez bien, on veut changer de logique. C'est très explicite. Sarkozy recule l'âge de la retraite. C'est-à-dire on va faire travailler les gens plus longtemps et ils auront une retraite plus importante, moins importante, puisqu'ils la toucheront moins longtemps. La réforme Macron qui est prévue est dans la suite de cette logique-là. Je dis « est » dans la suite, et j'aurais tendance de dire « était » dans la suite. Parce que les jeux ne sont pas faits, qu'il y a des changements relativement importants, et que ce n'est pas du tout sûr que Macron puisse avancer dans cette direction. Il sera peut-être même obligé d'aller dans une dimension complètement inverse.